Alors, bonjour à chacune et chacun. Merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil. En effet, comme l'a dit David, j'ai eu l'occasion de venir ici. Vous m'aviez gentiment invité et j'ai vérifié entre-temps quand c'était, puisque j'ai dit que c'était dans la salle à côté. Vous étiez en travaux ici, donc j'ai vérifié, c'était au mois de mai 2016. Donc ça fait quand même un certain temps. Et je viens donc, comme ça a été dit, de l'église voisine du Cep Saint-Maur, qui est encore au 137 rue Edgar Quinet. Je dis encore parce que plus pour longtemps. Normalement, aujourd'hui, ce matin, c'était notre dernier culte à Saint-Maur, au 137 rue Edgar Quinet, parce qu'on était censé déménager, puis il y a des petites échéances de signature qui ont été reculées. Donc, normalement, nous déménagerons probablement dans la deuxième quinzaine d'octobre. Mais nous restons à Saint-Maur. Et nous serons 68 avenue Carnot et nous aurons enfin un peu plus de place puisque depuis 30 ans, nous nous contentons de 150 mètres carrés au total. Donc on a eu plusieurs fois des projets d'agrandissement, de travaux et autres. Et voilà, maintenant c'est le temps de changer. Donc nous avons vendu nos locaux et puis nous déménageons au 68 avenue Carnot. Voilà, mais nous restons voisins. Nous restons voisins et nous pouvons avoir différentes occasions de partager ensemble. Alors, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou se souviennent pas, donc je suis un des anciens de l'église à Saint-Maur. Je suis un tout jeune homme, retraité de la vie professionnelle. Je suis ancien dans l'église de Saint-Maur depuis que nous l'avons fondée. Donc, j'ose à peine dire depuis combien de temps, Ça fait 40 ans. Et voilà, nous sommes en train de préparer une nouvelle équipe qui va prendre les choses en main. Donc, je suis père de famille. Nous avons eu 3 enfants et 8 petits-enfants, voilà, qui ont entre 7 et 14 ans, petits-enfants. Et nous avons eu la joie, ou peut-être que eux ont eu la joie de profiter de nous pendant cet été à nombreuses reprises. On dit que les grands-parents profitent de leurs petits-enfants, et c'est vrai. Mais bon, on n'a plus la même force et la même énergie, hein. Et quand ils s'en vont, on dit ouf. On dit chic quand ils arrivent, mais on dit ouf quand ils s'en vont. Mais on est à chaque fois content de les retrouver. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un texte, un psaume, qui a été écrit il y a bien longtemps, en effet. Et tout à l'heure, on a annoncé le titre que je donnais à cette méditation ce matin, « Crise de foi ». Alors, ma question pour vous, je ne vous demande pas de répondre, mais vous la gardez pour vous. Vous arrive-t-il de vivre une crise de foi? Alors, vous me direz oui, fin décembre, ou je ne sais à quelle occasion de fête. Oui, on parle d'une autre crise de foi, la crise de foi. Période d'interrogation, de trouble, de doute, de combat. Alors, il m'est arrivé souvent, et je sais que je ne suis pas le seul, beaucoup de responsables chrétiens, conseillent dans des moments un petit peu difficiles certains psaumes ou d'autres passages de la parole pour encourager, pour consoler, pour aider, pour accompagner. Et j'ai 2 psaumes que j'aime bien conseiller, et c'est facile à retenir, puisque il y en a un, c'est le 37, et l'autre, c'est le 73. Facile à retenir. Et donc, en fonction des situations, l'un ou l'autre, et ce matin, je vous propose de méditer le psaume 73. Un psaume qui, selon certains titres, nous parlerait, par exemple, dans la Bible du Semeur, qui a mis un titre comme celui-ci, « Pourquoi les méchants réussissent ?» Un point d'interrogation. Et beaucoup de psaumes soulèvent cette question. Pourquoi le méchant réussit-il comme s'il me narguait? Et d'autres titres disent plutôt « Quand tout semble réussir au méchant ». Certaines Bibles donnent des titres, d'autres non, mais dans la Bible en français courant, dans Parole de vie ou dans la Nouvelle Bible Second, eh bien on trouvera ce titre « Quand tout semble réussir au méchant ». Je pense qu'on est peut-être un petit peu plus vrai du thème qui est traité là. Et c'est vrai, on se pose cette question des fois, pourquoi eux? Marquez, quand ils souffrent, on se pose pas la question pourquoi eux, on dit « pourquoi moi ?» Mais dans certains cas, oui, on se dit « mais pourquoi eux ?» Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on se dit « il est vrai, mais finalement, est-ce qu'il mérite cette vie ? C'est pas plutôt nous qui la méritons, hein ? Puisque Dieu devrait nous la donner, ce qui semble faire partie de ses promesses, quand j'ai adhéré à la foi, quand je me suis tourné vers lui, nous qui finalement faisons l'effort d'obéir. » Dans ce psaume, nous allons trouver un véritable témoignage, une confession même, qui fait réfléchir le croyant et qui aide à bien recentrer notre manière de penser du sein de ce type de questionnement que j'ai évoqué tout à l'heure, qui trouble et qui mène même, on peut dire, sur des chemins douteux, voire le chemin du doute, plus exactement. Un psaume que je qualifierais, oui, d'une certaine manière d'assez extraordinaire et d'une étonnante actualité, d'une actualité même brûlante pour chacun d'entre nous. Et la question, avant la lecture de ce psaume, eh bien, c'est « suis-je concerné ? » Hein ? Suis-je concerné ? Crise de foi, ou encore on pourrait dire confession et restauration dans la foulée de la crise de foi. Je vous invite à lire donc le psaume 73, et je lis dans la version du Semeur 2015. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort et ont même de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles tout en disant « Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, connaît-il quelque chose ?» Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, et ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela a été pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête, mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi ? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais vous proposer de tout simplement avancer au fil de ce texte. Et pour commencer, dire un mot sur Asaph, qui est celui qui a écrit ce psaume, dit ce psaume, chanté ce psaume. ce Asaph qui est bien connu de ceux qui animent le chant et la louange, chef des chantres sous David, un de ceux qu'on appelait les chefs de chorale, un des plus importants chefs de chorale, et dans le livre des Chroniques, au chapitre 6, versets 16, 17 et 24, et également au chapitre 15, versets 16 et 6, on nous rappelle qui il était, donc un personnage, et même plus que chef des chantres, plus que chef de corps, de chorale, plus que chef de chœur, il était aussi prophète. En 2 Chroniques, au chapitre 29 et au verset 30, vous pouvez trouver cette référence. Et donc, il avait un ministère de louange, d'exhortation, d'édification. Un homme en vue, quoi. Un homme qui assumait, qui assurait des responsabilités et qui était en vue. Et il me semble intéressant d'avoir cela en tête, alors que nous allons méditer ce texte et de voir ce qu'il dit de ce qu'il vit. Dès le début du texte, nous avons un « oui ». Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un peu le sentiment que ici l'auteur commence par la conclusion. Oui, hein ? Oui, comme une réponse à un questionnement qu'il avait, à un doute. Le psalmiste ici va nous dire quelle est sa conclusion. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon avec son peuple, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Et on le comprend à la fin du psaume que c'est bien ce qu'il veut souligner, que Dieu est bon avec ceux qui se sont laissés transformer par lui, avec ceux de son peuple qui veulent marcher dans ses voies. Et nous avons immédiatement une confession de la part de cet auteur. La confession de sa crise de foi. Il introduit d'abord en soulignant le bord du précipice auquel il se trouvait. Il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Il était moins une. J'étais réellement au bord du précipice. Et il précise derrière, pourquoi dit-il qu'il était au bord du précipice? J'étais jaloux, j'étais arrogant en voyant ces gens. J'étais mangé, bouffé par la jalousie à cause de ces gens fiers d'eux, arrogants, qui me regardaient de haut, de ces hommes sans Dieu finalement, de ces hommes qui ont renié Dieu ou qui n'en veulent pas, de ces insensés, comme nous dit la Bible, voire de ces parvenus. Ah, la jalousie. La jalousie qui, finalement, engendre l'amertume, l'aigreur, ce sentiment durable de tristesse qui s'installe en nous, mêlé de rancœur, lié bien souvent à une humiliation reçue ou à une déception, à ce qu'on appellerait une injustice envers nous. Les synonymes qu'on pourrait trouver, découragement, dégoût, ressentiment. Ici, de la part d'Asaph, cet homme qui avait pour habitude de conduire le peuple et voire de l'enseigner, eh bien, nous fait une confession qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelle dans la bouche d'un personnage en situation de responsabilité, d'un personnage en vue. C'est pas si souvent que ça que des hommes en vue, des responsables dans nos églises même, confessent leur sentiment injuste. Et c'est finalement ce qu'ils faisaient en disant, voilà, j'étais bouffé par la jalousie. Et puis, dans les versets qui suivent, Asaph, d'une certaine manière, entre les versets 4 à 12, va interpréter la réussite du sans-Dieu. J'ai pas dit les sans-dents, pour faire écho à un certain président de la République que nous avons eu. J'ai dit les sans-Dieu. Et les sans-Dieu sont sans-Dieu parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Et ici, l'auteur va développer ce qui frappe les yeux, ce qui impressionne, ce qui donne une image de sérénité, de bonne santé, de bonheur, en quelque sorte ce que nous appelons communément dans notre société la réussite, quoi. Hein, qui fait envie à tout le monde, qui n'a pas envie de réussir, qui n'a pas envie d'être bien portant, voire presque de faire envie avec sa belle famille, son bon travail, sa belle voiture, sa belle maison, etc. À tel point, nous dit l'auteur ici, qu'il s'est presque laissé tenter par leur orgueil ou leur arrogance, comme dit ma traduction. Mais dans la plupart des traductions, on trouve plutôt orgueil. Il s'est quasiment laissé happer au point de lui-même tomber et se laisser séduire par les richesses et le pouvoir qui rendaient populaires ces hommes. Ces apparences qui finalement sont éphémères, qui sont trompeuses, mais qui nous impressionnent. Si on pense juste, allez, qui ne s'est pas laissé impressionner par des personnages qu'on dirait illustres? Si on regarde juste chez nos contemporains, eh bien, on pourrait penser à un certain Elon Musk, hein, la voiture électrique Tesla, les fusées maintenant, hein, la conquête de l'espace, hein. Impressionnant. Encore un autre, Jeff Bezos, hein, vous savez qui c'est Jeff Bezos, hein. C'est le propriétaire patron d'Amazon, qui lui aussi, avec sa société Blue Origin, voudrait conquérir l'espace. Ces hommes qui se prennent presque pour Dieu. Avec quelqu'un que tout le monde connaît encore mieux, un certain Mark Zuckerberg, hein, patron de Facebook, hein, que beaucoup de monde utilise ou ont utilisé, hein. Premier vrai réseau social international, qu'il a créé par hasard d'ailleurs, pour ceux qui ont lu son histoire. Mais voilà, il est une figure qui fait envie, et puis tellement d'autres qu'on peut voir plus près de nous, autour de nous, dans notre environnement au quotidien, qui peuvent nous faire envie et être un piège pour nous, comme pour Asaph, au point de se laisser aveuglé, tenté par tout ce qu'ils ont, nous laisser séduire et tomber dans cette attitude qui est l'orgueil de la vie. L'auteur ensuite nous entraîne au plus profond de ce qu'il vit, de ce qu'il est dans son cœur. Et il crache sa vérité, si je puis dire. Les versets 13 à 14, « C'est en vain que je suis resté pur au fond de moi. Je fais tous les efforts pour ne pas me souiller, pour ne pas pécher, pour suivre les enseignements de Dieu. Je suis fidèle au culte. J'accompagne même les chants. Je conduis le culte comme Asaph. » Je prêche la parole, je participe aux études bibliques, même en semaine, j'enseigne les enfants. Je m'occupe du groupe de jeunes où j'y participe. Je fais même le ménage avec joie. Et je suis même attentif aux besoins de mes frères et sœurs. Je pratique même la solidarité. Je donne de mon temps, de mon argent pour l'Église de Jésus-Christ. Je fais tout. Mais vraiment tout pour rester honnête, droit dans mes bottes, pour avoir une éthique conforme à la pensée de Dieu, à la pensée biblique, comme je l'ai compris jusqu'à aujourd'hui. Je suis même un bon témoin, je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ auprès de mes collègues, de mes voisins, je m'intéresse aux pauvres, aux chrétiens persécutés. Je soutiens des missionnaires avec mon Église, on soutient des missionnaires au loin, auprès. Et même, cerise sur le gâteau, je lis ma Bible tous les jours. Je prie tous les jours. Et au final, que se passe-t-il? Voilà, ce sont ces sans Dieu qui réussissent. On ne me respecte pas dans mon travail. On se moque de moi, etc., etc. C'est un peu ça, ce que disait Asaph. Ce qu'il confessait, ce qu'il vivait à l'intérieur de lui, cette lutte qu'il avait en lui. Voilà, Seigneur, à quoi ça sert de rester pur? Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous poser la question. À quoi ça sert d'obéir? Tu vois, j'ai des difficultés, j'ai des souffrances, ma santé, c'est pas toujours ça. Et oui, notre Asaph, on peut se dire, c'était un type bien finalement. Il était honnête, il mettait sur la table ce qu'il vivait. Mais son objectif n'était pas juste de le dire, il voulait aller plus loin. Et puis, la suite du texte est intéressante. Au verset 15, on a le sentiment qu'il y a là une sorte de crise de conscience, une prise de conscience qui va réorienter sa manière de penser. Il nous raconte un peu ce qu'il a vécu, et il nous raconte à ce moment-là qu'il est question de réorienter sa manière de penser, de ne plus être dans la jalousie, dans l'égoïsme, dans les fausses motivations. Et qu'est-ce qui va permettre cette réorientation? Eh bien, si nous lisons au verset 15, vous voyez cette espèce de prise de conscience, tout d'un coup comme une pause, « Si je disais, parlons comme eux, c'est-à-dire soyons comme ces sans-dieu, alors je trahirai tes fils. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit « je trahirai tes fils », il s'adresse à l'Éternel, il s'adresse à Dieu. « Je trahirai ton peuple ». Et quand je parle de prise de conscience, voire de crise de conscience, il se rappelle à ce moment-là qu'il fait partie d'un peuple, qu'il fait partie du peuple de Dieu. Il appartient à Dieu en tant que membre de son peuple. Il est de la race des enfants de Dieu. De la même manière que nous, chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens isolés. Nous faisons partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. En nous sauvant, Dieu nous a intégrés à son peuple. Et Dieu ne sauverait personne pour ne pas l'intégrer à son peuple. Nous devenons membres de son corps, membres de son Église. Il nous intègre, il nous fait prendre part à l'édifice qui se construit, pour prendre une des images utilisées dans le Nouveau Testament. Cet édifice dont la pierre sur laquelle tout repose est Jésus-Christ lui-même, ce qui induit que nous ne pouvons pas agir ou réagir comme si nous étions seuls. En fait, sa crise de conscience, c'est « je suis pas tout seul ». J'ai des frères et sœurs. Et dans ma façon d'agir, eh bien, je me mets en marge de mes frères et sœurs parce que j'ai des responsabilités. J'ai des responsabilités dans ma manière de vivre. Pas seulement, comme on dit souvent, je n'ai que des comptes à rendre que à Dieu. C'est un peu simple et facile. Mon seul Dieu, c'est Dieu. Il est mon seul patron, j'ai rien à répondre aux responsables de l'Église. J'ai rien à répondre aux responsables de ma mission. J'ai rien à répondre à mon patron dans mon travail, etc., etc. Et dans l'Église, il est question de faire partie du même peuple, de la même famille. Et Asaph va ensuite nous dire, en racontant toujours ce qu'il vit, quelle attitude adopter lorsque l'on déprime, finalement? Parce que finalement, c'était une déprime qui se traduisait par, qui passait par les sentiments de jalousie ou autre, mais c'était une vraie déprime. À quoi bon, Seigneur? J'ai envie de baisser les bras, de tout laisser tomber. Quelle attitude adopter alors que je déprime, quand je suis tourmenté face à ce que je vois et ce que je dénonce comme une injustice, ce que je vis comme une injustice? Est-ce vraiment toujours une injustice? Ça, c'est une autre question. Et le texte nous dit, là, dans les versets 16 à 17, qu'il s'est mis à réfléchir. Mince, un type de son niveau qui a des responsabilités, tout d'un coup, il nous dit, voilà, il se met à réfléchir. Avant, il réfléchissait pas. Non, il s'est mis à réfléchir sur ce qu'il vivait. Il s'est mis à réfléchir sur sa situation, sur ce qui l'avait amené à cela. Alors, quand on est en crise, comment vous faites? Est-ce que vous rentrez sur vous-même? Vous savez, c'est assez facile, on s'isole. Ah, ça va pas, je veux parler à personne. Hein? Ou bien, est-ce que on décide de se tourner vers Dieu, de se mettre à son écoute, à l'écoute de sa parole? Alors qu'il est tourmenté, il se met à réfléchir. Il dit « jusqu'à ce qu'il se rende au sanctuaire de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris ses deux jambes à son cou et puis il a parcouru 200 kilomètres pour rejoindre un lieu sacré, le temple, tabernacle, etc. Ici, Asaph nous parle vraiment de la présence de Dieu, de la communion, du secret, du tête-à-tête avec Dieu, du secret avec Dieu, de cette intimité, de ce mystère de la communion avec Dieu que nous connaissons, nous chrétiens, dans l'union à Christ, dans l'union à Jésus lui-même. Et cette union à Jésus et cette communion que nous pouvons vivre avec Dieu, eh bien, elle est nourrie aussi par la vie communautaire. Elle est nourrie aussi par l'Église, par l'enseignement que nous recevons, par l'enseignement que nous partageons, par la communion fraternelle, par la prière ensemble, par les projets que nous formons ensemble pour être sel et lumière dans notre quotidien et ensemble en Église. Et on a l'impression que pour lui, tout d'un coup, tout s'éclaire. Tout s'éclaire dans la présence de Dieu, dans sa révélation, dans ce que Dieu dit dans sa parole. À tel point qu'il parle encore de réflexion, pas seulement par rapport à ce qu'il vit, mais finalement au sort qui attend ceux-là qui sont sans Dieu. À l'issue fatale des méchants, de ceux qui persisteront dans ce que la Bible appelle la méchanceté, c'est-à-dire le refus de Dieu. Les méchants, ce sont les sans-dieux, ceux qui refusent Dieu. Et ceux-là ont une issue bien lourde à assumer. Eh bien, il réalise, et en réfléchissant, il réalise qu'il pensait complètement à l'envers. Et cela nous arrive si souvent de penser aussi dans le mauvais sens. Et il va, dans sa réflexion, arriver à la conclusion que finalement, la cause de ces difficultés, c'est pas les autres. Ce sont pas les sans-dieux, ce sont même pas les injustices. C'est pas tout ce qu'il n'a pas et qu'il devrait avoir. C'est lui-même. La cause de ses difficultés, c'est lui-même, c'est son moi. Et c'est ce que nous pouvons comprendre dans les versets 21 à 22. Oui, quand j'avais le cœur amer, vous voyez là, ça y est, il parle au passé, il nous raconte ce qu'il a vécu. Et il reconnaît que quand il avait le cœur amer, qu'il était tourmenté intérieurement, il était un pauvre bougre. J'étais un sot, j'étais un imbécile, j'étais un ignorant. Dans un langage particulièrement contemporain, j'étais un crétin, j'ose pas dire autre chose. Hein. Mais en fait, c'est ce qu'il nous dit. Hein. J'étais abruti, aveuglé par les apparences, sans aller au fond des choses. À tel point que je me comportais avec toi, l'Éternel, comme un animal. C'est-à-dire qui ne réfléchit pas. Qui juste est là. Qui vit avec ses instincts. Il ne voyait pas l'horizon. Il était en quelque sorte, comme le dit Derek Kidner dans son commentaire sur les psaumes, il était aveuglé par l'envie et la revendication. Et je pense que nous, chrétiens, cela nous arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. J'entends souvent des frères et sœurs qui me parlent de leur situation au travail, qui en parlent même publiquement, des souffrances qu'ils ont, et on peut l'entendre. Et on les entend pour... On leur demande, c'est de prier pour ceux qui les font souffrir, pour qu'ils arrêtent de les faire souffrir. Mais ne serait-il pas juste aussi de prier pour que le Seigneur nous aide à encaisser, à accepter et à avoir la juste attitude pour encourager ces gens à changer d'attitude, mais pas seulement dans mon propre intérêt, mais dans le leur aussi, pour qu'ils n'aillent pas à l'issue fatale que nous avons évoquée tout à l'heure. Et oui, il réalise et il confesse son amertume. En cela, il reconnaît son péché. Il reconnaît, et quand on pêche, que se passe-t-il ? On offense Dieu. On est comme en opposition avec lui, puisque les reproches lui sont directement adressés. On le voit dans sa confession. Et alors qu'il approche de la fin de son psaume, une fois qu'il a confessé tout cela, qu'il a reconnu son péché, il passe en fait par la repentance, par ce qu'on peut appeler la repentance. Voilà ce que j'étais, mais Seigneur, voilà, je suis toujours avec toi. Ouf ! Je suis toujours avec toi. Pourquoi ? Parce que tu me tiens, parce que tu m'as saisi la main. Tu m'as saisi la main droite. Tu me tiens, tu tiens toute ma vie. Et tu vas plus loin par ton conseil et tu me conduis. Et même tu m'emmèneras jusque dans la gloire. Quelle révélation il partage là avec nous. Asaph a trébuché, mais l'Éternel le tient par la main. Il ne tombe pas. Quelle assurance. Pourtant, on pourrait dire, il est tombé. Non, il a trébuché. Il était au bord du précipice. Il a failli, hein, comme le début du texte nous le dit. Mais Dieu garde ses enfants. Dieu garde celui qui veut rester dans ses voies. Et Dieu intervient, souvent par le moyen de nos frères et sœurs, pour nous faire comprendre notre situation. Tous ceux qui connaissent vraiment Dieu lui sont attachés et possèdent beaucoup plus que les méchants, beaucoup plus que les sans-Dieu, malgré les apparences. Dieu est un Dieu fidèle qui guide son peuple, son enfant, son héritier. Oui, c'est vrai, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Et son objectif, c'est de nous prendre et de nous garder définitivement dans sa présence. Dieu ne change pas. Dieu tient ses promesses. Et c'est ce qu'il dit en quelque sorte en disant, Dieu n'a pas lâché ma main. Et c'est pourquoi, merci Seigneur, je suis toujours avec toi. Pas parce que j'en suis capable, pas parce que je suis fort, pas parce que voilà, je suis un mec bien, pas parce que j'ai compris, j'ai lu la Bible et j'ai compris qu'il fallait marcher comme ci et comme ça et comme ça. Non, parce que toi, tu me tiens par la main. Toi, Seigneur, mon Dieu. N'importe où, au ciel, ici-bas, que désirer d'autre ? N'importe où, je suis avec toi. Ici, on a un peu « Qui ai-je au ciel ?» et « Si ce n'est toi, que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi ?» On a un peu comme la réponse au verset 9, où la bouche du méchant qui s'exprime s'en prend au ciel même. Ceux qui voudraient diriger le monde, comme ceux que nous avons cités tout à l'heure, qui se prennent pour des petits dieux ou des grands dieux. Eh bien, Dieu est celui qui règne, celui qui est avec nous. Et ici, dans ce texte, c'est le contraire de ce qu'on lit souvent dans la parole, où Dieu promet d'être avec nous. Et ici, le psalmiste reconnaît qu'il est avec Dieu. Pas parce qu'il est capable, mais grâce au Seigneur et à la main de Dieu tendue vers lui. Quelle lucidité quand nous sommes à l'écoute de Dieu, quand nous écoutons sa voix, quand nous écoutons nos frères et sœurs et que nous nous laissons interroger, interloquer. Quelle lucidité quand Dieu se révèle à nous, tout simplement. Alors pour conclure, comment nos doutes, les pourquoi qui nous assaillent, la jalousie, l'amertume, comment régler tout cela devant Dieu ? Eh bien, tout simplement comme Asaph, se mettre dans cette situation d'entendre la voix de Dieu et de réaliser, de comprendre, de saisir que, comme pour Asaph, être près de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, comme disent les traductions les plus traditionnelles, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Cela nous renvoie à ce que cela veut dire, m'approcher de Dieu, au psaume premier. Je vous invite à reméditer aussi le psaume premier. La présence de Dieu, ce qui se traduit par, comme nous l'avons dit, sa conduite, son accompagnement, et même quelquefois sa discipline. Et je pense que Asaph a été en quelque sorte peut-être repris, discipliné par le Seigneur pour arriver sur le chemin de la repentance et confesser ces choses de cette manière, les réaliser ainsi. La présence de Dieu, bien plus importante, bien plus essentielle que tout ce qu'il nous donne. Mon bien, mes biens. C'est intéressant de voir ce que dit Asaph. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. D'habitude, mon bien, c'est quoi? C'est ma santé, mon travail, ma famille, ma maison, ma situation, mes vacances, mes loisirs, mes amis, mon temps précieux avec eux. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, nous dit Asaph. Et là, il est réellement question de sa présence, de la présence de Dieu, dès aujourd'hui, déjà aujourd'hui. Je ne défends pas la théorie de dire que c'est seulement dans l'éternité. Oui, dans l'éternité, nous connaîtrons totalement la présence de Dieu. Mais nous la connaissons aujourd'hui aussi. Dieu nous l'a fait connaître. Il nous en donne les arts. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et nous devons apprendre à le vivre dans sa réalité dès aujourd'hui. Sinon, à quoi servirait-il qu'il ait décidé de venir nous habiter par son esprit, d'habiter l'Église par l'esprit? Grâce à la mort de Christ, sa résurrection, sa position aujourd'hui à la droite du Père. Et oui, Christ est la seule voie pour la rencontre, pour nous aujourd'hui. La seule voie pour se rendre au sanctuaire, pour comprendre, pour vivre ce qu'est la présence de Dieu, ce qu'est cette relation, cette intimité qui n'est pas que entre Dieu et moi, mais entre Dieu et moi et entre Dieu, mes frères et sœurs, et moi aussi. Parce que chez mes frères et sœurs, je vais voir Dieu agir. Je vois le Christ agir dans la vie de mon frère et ma sœur, et Dieu me parle de cette manière, il me parle de façon qu'il ne me parlerait peut-être pas quand je suis juste tout seul. Certains font le choix de s'isoler pendant des années, de s'isoler du monde en pensant qu'ils vont mieux trouver Dieu. Peut-être ça a été le cas pour eux. Je ne suis pas certain que ce soit le chemin pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous rencontrer dans notre vie quotidienne et il veut nous rencontrer, partager notre vie en assemblée, en église avec nos frères et sœurs. Ma vie est-elle empreinte de ma rencontre quotidienne avec Dieu? Dieu est-il mon bien suprême, mon refuge? En fait, est-ce que je peux dire Dieu est mon bonheur? Vous connaissez tous cette petite expression qu'on utilise aujourd'hui, hein? Comment on dit déjà? Ça y est, j'ai oublié du coup. Il y a une expression où on dit que du bonheur. Merci. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui allait le dire. Hein? Ah oui, là, ces vacances, là, c'était que du bonheur. Hein? Et on commence par la conclusion, c'est ce qu'on en ressort. Puis après, on dit, ah oui, mais il y avait quelques difficultés quand même. Tu sais, pour rejoindre la plage, là, c'était compliqué avec ces mecs, avec leurs grosses bagnoles, là, qui prenaient toute la place. On n'arrivait pas à trouver une place de parking, etc. Et puis quand ils arrivaient avec toutes leurs smalas, toutes leurs familles, ils occupaient toute la place sur la plage aussi, etc. C'était un peu compliqué, hein. Mais enfin, bon, c'était bien quand même, hein. Que du bonheur. Et est-ce que je peux dire, Dieu est mon bonheur? Ma rencontre avec mes frères et sœurs, c'est mon bonheur, c'est ma joie. Que désirer d'autre ici-bas, puisque je suis avec toi? C'est ce que nous dit le psalmiste. Dieu lui-même, Jésus-Christ, est-il réellement, pour moi, plus important que toutes les choses temporelles, même si j'ai conscience que tout ce que j'ai, il me le donne. Il me le donne même en responsabilité, en gestion, pour sa gloire. Même la santé, même le travail, même l'argent, qui ne sont pas des dus, mais pour lesquels nous pouvons remercier le Seigneur. Mais Jésus-Christ est-il plus important que tout cela pour moi? Au point que, lucide, comme Asaph, je ne veux plus me laisser impressionner par les apparences. Et je veux, comme la conclusion de ce psaume nous y encourage, je veux proclamer, je veux dire, je veux raconter Dieu, je veux dire son œuvre. Je veux la vivre et je veux le dire. Je raconterai toutes tes œuvres, c'est la dernière parole de ce texte, hein, qui d'une certaine manière nous renvoie aussi au premier verset, à la conclusion. Oui, Dieu est bon pour son peuple au cœur pur. Et attention au piège, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller imaginer que Dieu n'est bon qu'avec nous parce que nous avons le cœur pur, parce qu'il l'a purifié, non pas parce que nous le méritons, mais il l'a purifié, c'est vrai. Mais il n'est bon qu'avec nous. Le texte ne dit pas d'une manière exclusive, Dieu n'est bon qu'avec nous. Mais il précise bien, toutefois, que Dieu est vraiment bon avec son peuple. Et dans les circonstances qu'a vécu Asaph, ça veut dire qu'il n'oublie pas son peuple et qu'il est vraiment bon avec lui et qu'il veut son bien à ses enfants qu'il purifie, ses enfants qu'il a amenés au pied de la croix. Il dit surtout cela, mais il dit pas qu'il n'aime pas les autres. La preuve est qu'il veut nous utiliser pour les attirer. L'Église existe, pas pour elle-même, mais pour la gloire de Dieu et pour en faire rentrer d'autres. Une œuvre extraordinaire que l'Église de Jésus-Christ. Combien c'est sécurisant et rassurant de savoir que Dieu est bon aussi avec son peuple et qu'il veut en prendre soin. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier pour toutes les richesses que nous pouvons trouver dans ta parole, pour ces témoignages, comme nous le trouvons dans certains psaumes et dans d'autres textes, d'hommes et de femmes qui ont vécu des moments aussi difficiles, mais qui ont su se laisser interroger par toi, arrêter par toi et redresser l'orientation de leur vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que même celles et ceux à qui tu as confié des responsabilités restent fragiles et nous avons tous besoin, Seigneur, de revenir vers toi au pied de la croix, conscients que nous te devons tout, la vie en tout premier lieu. Et Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, Père éternel, fais que tu aies vraiment cette place dans nos vies, que nous puissions trouver notre bonheur en toi, dans ta présence, notre Dieu. Et nous te louons ce matin ensemble pour l'œuvre de Christ, cette œuvre qui nous a amenés sur le chemin de la réconciliation avec toi. Te bénissons pour le travail et l'œuvre de l'Esprit Saint aujourd'hui, en nous, au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ. Amen.